Vous écoutez On lit pour vous.
Nouvel espoir pour traiter plus efficacement le cancer de la prostate. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans la presse. L'utilisation combinée de deux molécules permet de traiter plus efficacement le cancer de la prostate métastatique chez les patients qui présentent des anomalies génétiques qui nuisent à leur capacité à réparer leur ADN, démontre une étude internationale à laquelle a participé un chercheur du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. La plus connue des différentes mutations qui peuvent empêcher l'organisme de réparer efficacement l'ADN est probablement celle qui touche le gène BRCA, qui est entré dans le vocabulaire populaire pour son association avec le cancer du sein, et c'est en présence de celle-ci que le nouveau traitement s'est révélé être le plus efficace. On étudie plusieurs gènes, mais le BRCA, c'est le plus connu et le plus prévalent parmi les gènes qui affectent vraiment le cancer de la prostate, a détaillé le Dr Fred Saad, qui compte parmi les sommités mondiales en matière de traitement du cancer de la prostate. Alors, depuis plusieurs années, on travaille sur quoi faire pour ces gens-là qui ont ces anomalies génétiques et on a découvert qu'on peut vraiment changer le cours de ces gens-là quand on introduit des médicaments qui attaquent les conséquences de ce gène-là. Le but de l'étude était ainsi d'évaluer l'efficacité contre le cancer de la prostate métastatique d'un traitement qui a déjà fait ses preuves face au cancer du sein, à savoir une combinaison des molécules thalazoparib et enzalutamide. Chez les patients qui présentaient des altérations des gènes BRCA1 ou BRCA2, la survie sans progression évaluée par imagerie à 3 ans était de 77% dans le groupe thalazoparib et de 49% dans le groupe témoin, peut-on lire dans le prestigieux New England Journal of Medicine. Chez les patients qui ne présentaient pas de mutations à ces deux gènes, mais plutôt des mutations à d'autres gènes pouvant interférer avec la réparation de l'ADN, les valeurs correspondantes à 3 ans étaient respectivement de 76% et de 60%, ajoute-t-on. Des résultats préliminaires permettent aussi de croire à une prolongation de la survie globale des patients, mais cela reste à vérifier au cours des prochaines années. Les travaux soulignent toutefois que le traitement combiné a été associé à davantage d'effets indésirables graves, notamment l'anémie. On estime qu'environ le quart des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique présentent aussi des mutations génétiques qui réduisent l'efficacité des traitements disponibles. La combinaison thérapeutique mise à l'essai dans le cadre de cet essai clinique de phase 3 pourrait donc être en mesure de les aider, surtout si la mutation touche le gène BRCA. En d'autres mots, on amène ces gens-là, qui ont une anomalie très, très mauvaise en termes de pronostic, on les ramène aux gens qui n'ont pas ce gène-là, a dit le Dr Saad. C'est comme ça que je le vois. C'est comme si on élimine cette anomalie de l'équation de mauvais pronostic. C'est assez extraordinaire. Tout cela est d'autant plus emballant, poursuit-il, que les chercheurs ont mesuré des bénéfices peu importe l'âge des patients, qu'ils aient plus ou moins de 70 ans. Avec les résultats qu'on a à date, je suis convaincu qu'il va y avoir cette possibilité de traiter les patients très prochainement parce que les résultats sont trop forts pour que les gouvernements disent non à l'approbation, a prédit le Dr Saad. Je suis très optimiste que ça va être approuvé et qu'on pourra l'offrir à nos patients. C'était « Nouvel espoir pour traiter plus efficacement le cancer de la prostate ». Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans la presse.
Encore peu de rendez-vous les soirs et les fins de semaine dans les cliniques. Un texte de Marie-Michel Sioui et Sarah Beaumeda, paru le 10 2026 dans Le Devoir. Bien qu'il se soit engagé à voir plus de patients les soirs et les fins de semaine, les médecins de famille continuent à offrir la quasi-totalité de leurs rendez-vous en plein cœur de la semaine et ouvrent la majorité de leurs plages horaires avant 15 heures. Entre janvier 2024 et le 5 août 2026, date de la plus récente mise à jour du ministère de la Santé, les omnipraticiens ont offert 62 % de leurs consultations les mardis, mercredis et jeudis. À quelques décimales près, ce pourcentage est demeuré stable sur toute la période. Ni la médiatisation de cette question, pour la première fois en mai 2025, ni l'entente de principe entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, en décembre, n'ont fait bouger l'aiguille. L'accord entre Québec et la FMOQ, intervenu après des mois de négociations musclées, identifie pourtant l'augmentation de services en heures défavorables, soirées, nuits, fin de semaine, jours fériés, parmi les indicateurs de performance à surveiller. Québec cherche ainsi à savoir dans quelle mesure les investissements gouvernementaux en médecine de famille contribuent à l'atteinte des objectifs de prise en charge de la population et d'accessibilité. L'entente réserve d'ailleurs à compter du 1er avril 2027 une somme récurrente de 75 millions de dollars conditionnelle à une série de critères, dont l'attribution des heures défavorables. Pour obtenir ces chiffres, Le Devoir a analysé les 927 667 lignes du portrait quotidien des rendez-vous en clinique du ministère de la Santé. Ces données ont été compilées entre le 1er janvier 2024 et le 5 août 2026. Une semaine n'est cependant pas recensée, celle du 4 au 10 juin 2026 inclusivement. Des rendez-vous en semaine. Les informations se trouvant dans ce tableau permettent de constater que, depuis janvier 2024, les médecins de famille ont offert 94 % de leurs rendez-vous en semaine, du lundi au vendredi. Environ 6 % des plages horaires ont donc été ouvertes les samedis et dimanches. De tous les rendez-vous proposés, 81 % l'ont été avant 15 heures. La signature de l'entente de principe avec la FMOQ en décembre n'a pas modifié la tendance. Depuis cette date, les chiffres n'ont presque pas bougé. Les médecins ont ouvert 94 % de leur plage horaire en semaine, 61 % entre le mardi et le jeudi. En tout, 82 % des rendez-vous ont été offerts avant 15 heures. Le cabinet de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a dit travailler à changer cette situation. Les patients doivent pouvoir avoir accès à des rendez-vous au moment où ils en ont besoin. C'est ce que nous voulons améliorer avec l'entente conclue avec la FMOQ, dont la mise en œuvre se poursuit. Nous travaillons avec les médecins de famille pour que cette entente se traduise concrètement par un meilleur accès pour les patients, a fait savoir mercredi la directrice des communications et des relations médias, Catherine Barbeau. La directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, a dit avoir fait tomber tous les saints du ciel en prenant connaissance des données. Je suis vraiment en colère parce qu'on nous avait promis une augmentation de plage horaire. On nous avait dit qu'avec la négociation, on aurait plus de services, que les usagers auraient de l'accès. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a absolument rien qui a changé avant et après la signature. Les médecins ont eu de l'argent et les usagers n'ont pas plus d'accès, a-t-elle lancé. La FMOQ prudente. De son côté, la FMOQ y est allée d'une mise en garde à propos de ces données. Pour avoir un véritable portrait de la semaine de travail des médecins de famille du Québec, il faut tenir compte de ce qui les distingue de leurs collègues canadiens. Les médecins du Québec sont ceux qui, en plus du travail à la clinique, travaillent le plus en milieu hospitalier. ce sont eux qui offrent le plus de rendez-vous en clinique les soirs et la fin de semaine. Ils sont aussi ceux au Canada qui travaillent le plus aux heures défavorables, le soir, la nuit et les week-ends, a avancé le porte-parole Stéphane Gosselin. La FMOQ a auparavant fait valoir le fait que les médecins offrent des quarts défavorables lors de leurs activités obligatoires à l'urgence ou en centre d'hébergement, par exemple. Les données du ministère incluent également les plages de rendez-vous ouvertes par des infirmières travaillant en clinique médicale ou en CLSC. Depuis janvier 2024, elles offrent majoritairement, 98%, des consultations en semaine. Au total, 83% de celles-ci ont été proposées avant 15 heures. C'était encore peu de rendez-vous les soirs et les fins de semaine dans les cliniques. Un texte de Marie-Michèle Sioui et Sarah Boumeda paru le 10 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. En 1928, signature du pacte Briand-Kellogg. Plusieurs grandes puissances mondiales signent à Paris un pacte renonçant à la guerre comme instrument de politique nationale et prévoyant le règlement pacifique des différends internationaux. Porté par le Français Aristide Briand et l'Américain Frank Kellogg, ce traité recueillera par la suite l'adhésion de la quasi-totalité des États du monde. Bien que dépourvu de mécanismes de sanctions efficaces, il posera un principe juridique important, repris plus tard dans le droit international. Il ne parviendra cependant pas à empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août.
Dans la tête de Trump, le président américain s'identifie à l'héroïne du film Sunset Boulevard, un texte de Richard Martineau paru le 11 août 2026 dans le Journal de Montréal. Les films préférés des grandes figures de l'histoire nous en disent long sur leur personnalité. Par exemple, savez-vous quels étaient les films préférés de Staline? Ceux qu'il prenait plaisir à regarder pendant que ses sbires torturaient ses opposants? Les films de Tarzan, le roi de la jungle. Le film préféré d'Hitler? King Kong, le gorille géant qui terrorisait le monde. Et le film préféré de Mao? La fureur de vaincre avec Bruce Lee. Pas de farce. Le plus grand tueur en série de l'histoire, 60 millions de morts selon les historiens, aurait fondu en larmes la première fois qu'il a vu ce film de kung-fu. Bruce Lee est un héros, se serait-il exclamé. Je viens de terminer un livre passionnant sur le tournage de Sunset Boulevard, le chef-d'œuvre de Billy Wilder avec Gloria Swanson. C'est, paraît-il, le film préféré de Trump. Non seulement le regarde-t-il régulièrement, mais il le montre à ses collaborateurs. Pour ceux qui n'ont pas vu ce long-métrage sorti en 1950, il raconte la descente aux enfers d'une actrice qui a été une grande star du cinéma muet. Recluse, vivant en ermite dans une grande maison vide, cette actrice vieillissante qui vit dans la gloire de ses succès passés est amoureuse d'un scénariste raté. Lorsque cet homme de 30 ans, son cadet, refuse ses avances, elle le tue. Dans la scène finale, lorsque la police va l'arrêter et qu'un photographe judiciaire la prend en photo, cette diva extravagante, qui a coupé tous les ponts avec la réalité, croit qu'elle tourne une super production hollywoodienne. « Je suis prête pour mon gros plan !» dit-elle avec grandiloquence en descendant un grand escalier sous le regard estomaqué des policiers. Un monde imaginaire. Selon des proches de Trump, le président des États-Unis s'identifie totalement à l'héroïne du film. Citation : « Monsieur Trump a projeté le film à son équipe au camp David », a écrit l'ex-attaché de presse Stephanie Grisham. « Il était tout excité. J'étais estomaqué par les similarités entre l'héroïne du film et le président ». Comme M. Trump, cette femme, qui vit dans un monde imaginaire, est convaincue que tout le monde l'aime et l'idolâtre. Elle n'a aucune idée de ce que les gens pensent réellement d'elle. Fin de citation. De dire un journaliste de Bloomberg, citation, « Au début des années 2000, Trump a montré Sunset Boulevard à son équipe lors d'un vol sur son jet privé. Il s'identifiait totalement à cette femme qui rêvait d'effectuer un retour. Je suis sûr que lors de la campagne de 2024, il se sentait comme elle. Je vais leur montrer. Je vais revenir sous le feu des projecteurs. Ils n'ont encore rien vu. » Fin de citation. Dans une scène du film, un homme reconnaît l'ancienne actrice. « Vous étiez une vedette, vous. Vous étiez grande à l'époque. » « Je suis encore grande, » répond-elle. « Ce sont les films qui sont devenus petits. » C'est 100% Trump. Le problème n'est pas son égo surdimensionné. C'est le monde qui manque de grandeur. C'était « Dans la tête de Trump ». Le président américain s'identifie à l'héroïne du film Sunset Boulevard. Un texte de Richard Martineau, paru le 11 août 2026 dans le Journal de Montréal.
Feu d'artifice, panique chez les oiseaux. Un texte de la rédaction paru le 21 février 2025 dans Québec Science. Les feux d'artifice nous émerveillent, mais pour les oiseaux, c'est une toute autre histoire. Des scientifiques viennent de découvrir que ces spectacles lumineux provoquent un véritable chaos dans le ciel, perturbant les oiseaux sur des distances stupéfiantes. Imagine, tu dors paisiblement dans ton lit et soudain, des explosions assourdissantes te réveillent en sursaut. C'est exactement ce que vivent des millions d'oiseaux lors du lancement de grands feux d'artifice, par exemple lors de célébrations du Nouvel An. Une équipe internationale de chercheurs a utilisé des radars météorologiques pour observer ce phénomène aux Pays-Bas et mieux comprendre les répercussions des feux d'artifice sur les oiseaux, et les résultats sont impressionnants. Installés à de nombreux endroits sur le territoire, les radars météorologiques servent d'abord à faire le suivi du couvert nuageux et des précipitations. Mais ils peuvent aussi détecter les mouvements aériens des grands groupes d'oiseaux, comme les migrations nocturnes. Les scientifiques néerlandais ont donc consulté les relevés des radars météo au moment des feux d'artifice du Nouvel An. Puis, ils ont recoupé ces informations avec les données de recensement d'oiseaux réalisées par des centaines de bénévoles sur le terrain. Ils ont pu ainsi identifier les espèces d'oiseaux concernées par les migrations nocturnes. Résultat, comparé à une nuit normale, le nombre d'oiseaux détectés en vol durant la nuit du Nouvel An est multiplié par 1000. Et ce n'est pas une petite perturbation locale. Les effets se font sentir jusqu'à 10 km des feux d'artifice. Les grands oiseaux, comme les oies et les canards, sont particulièrement touchés. Ils s'envolent en panique et restent en l'air pendant près d'une heure, volant à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Ces vols forcés ne sont pas sans conséquences. Imagine devoir courir un marathon en pleine nuit, en plein hiver, sans t'y être préparé. C'est l'équivalent pour ces oiseaux. Cette dépense d'énergie inattendue est particulièrement problématique en hiver, quand la nourriture se fait rare. Les chercheurs ont découvert que pour récupérer, certaines oies passent ensuite 10% plus de temps à chercher de la nourriture durant les 11 jours suivants. Face à ces découvertes, les scientifiques proposent des solutions. Créer des zones sans feu d'artifice près des habitats d'oiseaux. Des alternatives beaucoup moins dérangeantes existent, comme les spectacles de drones lumineux. Ces performances silencieuses permettent de créer des tableaux magiques dans le ciel sans perturber nos amis à plumes. Alors, prête à revoir ta façon de célébrer la nouvelle année? C'était « Feu d'artifice, panique chez les oiseaux », un texte de la rédaction paru le 21 février 2025 dans Québec Science.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août. En 1957, début du filibuster record de Storm Thurmond. Le sénateur américain Storm Thurmond entame un discours fleuve de plus de 24 heures au Sénat afin de retarder l'adoption du Civil Rights Act de 1957. Ce filibuster reste à ce jour le plus long jamais prononcé par un seul sénateur dans l'histoire du Sénat américain. Malgré cette obstruction, la loi sera finalement adoptée peu après. Cet épisode illustre les vives tensions politiques entourant la question des droits civiques aux États-Unis. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 28 août.
Borderline Chaos, Requiem pour le système d'immigration canadien. Un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir. Augmentation foudroyante des admissions puis recul et moratoire. La politique migratoire canadienne a connu au cours de la dernière décennie un parcours en montagne russe. Le journaliste du Globe and Mail, Tony Keller, a trouvé dans ces années turbulentes le sujet de son premier essai, Borderline Chaos, qui a remporté récemment le prix d'honneur 2026, remis au meilleur ouvrage canadien sur les politiques publiques. Le Devoir s'est entretenu avec lui. Né à Montréal en 1967, diplômé des universités Duke et Yale, Tony Keller travaille en journalisme depuis 35 ans, passant notamment par la rédaction du Financial Post Magazine et du Maclean's. Au fil du temps, il a fait de l'immigration et de ses implications économiques l'un de ses sujets de prédilection. Comme Canadien, j'ai passé beaucoup de temps à penser aux différences que nous avons avec les États-Unis. Et l'immigration, c'est une différence profonde entre la politique canadienne et la politique américaine. Je crois que la différence, c'est que historiquement, nous avons fait de meilleurs choix dans notre politique d'immigration, raconte-t-il en français à partir de Toronto. Sous-titré « How Canada Got Immigration Right and Then Wrong », Borderline Chaos porte en son sein un plaidoyer en faveur du modèle traditionnel d'immigration canadien qui encourageait une immigration choisie légale, permanente, nombreuse mais pas trop, composée de gens éduqués et qualifiés, écrit Tony Keller. De la fin du gouvernement Mulroney jusqu'au début du gouvernement Trudeau, les conservateurs et les libéraux étaient sur la même page. Environ 250 000 immigrants par année, une minorité de réfugiés et de réunification familiale et une vaste majorité d'immigrants économiques, résume en entrevue celui qui a amorcé sa carrière au Globe and Mail en 1991. Un système dans lequel les immigrants économiques sont choisis en fonction d'un système de points basé sur leur potentiel de contribuer à l'économie canadienne, éducation, langue, expérience, âge, etc. C'était un très bon système et plusieurs pays le considéraient comme un modèle. En particulier, et il faut le souligner, les États-Unis le regardaient comme un exemple à suivre, tant à droite qu'à gauche. L'immigration comme solution magique ? Cette doctrine a volé en éclats lors des premières années du gouvernement Trudeau, avec l'ouverture de nouvelles voies d'immigration temporaire et l'augmentation des cibles d'admission, en particulier celles des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires qui sont venus à former un bassin de main-d'œuvre peu qualifié pour plusieurs industries à bas salaire, comme la restauration ou le tourisme. Résultat, en 2024, l'immigration temporaire représentait 3 millions de personnes, soit 7,3% de la population canadienne. Une augmentation fulgurante qui, toute proportion gardée, est plus importante que les plus grandes vagues d'immigration vécues aux États-Unis. Le mouvement était tel qu'il a fini par exercer une pression à la hausse sur le marché du logement et les services publics. À lui seul, le nombre d'étudiants étrangers a quintuplé pour atteindre 1 million de personnes en 2023. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qui sous-tend Borderline Chaos, qui se dit à la fois comme un traité d'économie et un livre d'histoire contemporaine. Il ne faut pas seulement blâmer le gouvernement Trudeau. Dans la liste des récriminations, ils sont au premier rang, mais ils n'étaient pas les seuls, assure Tony Keller. L'auteur souligne aussi l'appétit des provinces pour les étudiants étrangers qui en sont venus à financer une partie importante du système d'éducation. Il note également les appels répétés du patronat à remédier à la pénurie de main-d'œuvre avec des travailleurs temporaires. À cela s'ajoute la voix de groupes comme l'Initiative du siècle, qui vante les mérites d'une immigration massive comme moteur de croissance pour l'économie canadienne et augmenter le poids du pays sur la scène internationale. Plusieurs voix différentes disaient au gouvernement qu'il pouvait arriver à des résultats économiques très positifs, de façon presque magique, en augmentant l'immigration et en baissant les standards, explique Tony Keller. Au même moment, le gouvernement cherchait à stimuler la croissance du PIB en berne après la dégringolade des prix du pétrole en 2014. Augmenter le nombre d'habitants et par le fait même de consommateurs semblait une solution intéressante. Un calcul erroné, soutient le journaliste. Il y a eu confusion entre faire croître l'économie et faire grimper les standards de vie. Le PIB national et le PIB par habitant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde autour de la table que la tarte va nécessairement être plus grande. Le PIB par habitant, qui donne un meilleur aperçu du niveau de vie général, a diminué de près de 2% au sommet de la vague migratoire entre 2022 et 2024, fait remarquer l'auteur. Si on amène beaucoup de gens qui gagnent de bas salaires, ils vont utiliser beaucoup de services gouvernementaux, l'éducation, la santé. Ils gagnent moins et payent moins de taxes. C'est un bénéfice pour les employeurs, mais ça a aussi un coût. Notre but devrait plutôt être de faire grimper les salaires, particulièrement au bas de l'échelle. Retour en arrière. Est-il possible de remettre le dentifrice dans le tube et de revenir à un système basé sur une immigration permanente et qualifiée? Le fédéral a déjà marqué le coup en réduisant le nombre d'étudiants étrangers et en rendant plus facile l'embauche de travailleurs temporaires. Mais la tâche s'annonce difficile et pose des enjeux éthiques importants, estime Tony Keller. Les gouvernements ont opéré comme si le système temporaire était vraiment temporaire, mais ce n'était pas le cas. La plupart des gens venus par les voies temporaires ont envie de rester en permanence, rappelle-t-il. C'est comme si on avait laissé entrer 1 million de personnes dans un stade pour un concert de Taylor Swift et puis qu'on réalise qu'on a seulement 100 000 billets à vendre. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera très difficile. C'était Borderline Chaos, Requiem pour le système d'immigration canadien, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 20 juillet 2026 dans Le Devoir.